Les cours du Collège de France, Laurent Coulon, chère civilisation de l'Égypte pharaonique.
Bonjour à tous. Alors, la semaine dernière, nous avions vu comment les courtisans se représentaient eux-mêmes dans leurs monuments funéraires à l'Ancien Empire, autant dans les mastabas que dans les tombes rupestres. Et nous avions abordé également la question des inscriptions dites autobiographiques, en rappelant la distinction classique qui existait entre autobiographie événementielle et autobiographie idéale, en tout cas dans les premiers temps du développement de ce genre. Alors nous allons poursuivre cette exploration de l'autoprésentation des courtisans avec l'évolution notable qu'on constate sur les stèles du Moyen Empire. Et nous verrons ensuite comment se projette dans la société égyptienne ce modèle culturel du courtisan, de sorte à devenir un idéal de comportement par le biais des textes d'enseignement. Et donc c'est cette connexion entre le genre autobiographique et le genre sapiential qui sera au cœur de nos développements dans la deuxième partie de cette séance. Alors les stèles du Moyen Empire sont d'une grande diversité. On pourrait retrouver dans certaines, notamment celle d'Abydos, une miniaturisation de l'univers que nous avions étudié dans les mastabas de l'Ancien Empire, qui se poursuit évidemment aussi dans les mastabas et les tombes rupestres du Moyen Empire. Si on prend l'exemple de cette stèle conservée à Berlin, appartenant à un certain Sésostris, qui a vécu au milieu de la 12e dynastie, on retrouve le dignitaire assis en train de dominer l'univers de sa maisonnée et de ses subalternes, occupé à lui apporter les offrandes nécessaires à sa survie post-mortem. Mais ce qui va nous intéresser ici plus particulièrement, ce sont les stèles qui portent des inscriptions développées, à même de nous éclairer sur le fonctionnement de la société de cour à l'époque, et puis de voir comment se construit par le discours ce modèle du courtisan qui imprègne ensuite toute la société. Alors le corpus est énorme, évidemment. Nous allons privilégier l'étude d'exemples significatifs pour notre propos. Alors j'en ai sélectionné un d'abord qui date de la 11e dynastie et qui est ensuite un monument qui a été ensuite usurpé à la 12e dynastie. Cette stèle, elle vient d'un secteur que nous n'avons pas encore véritablement abordé cette année, le secteur d'Héliopolis. Lors des fouilles menées à Héliopolis dans les années 1980. Vous savez que l'antique Héliopolis est recouvert maintenant d'un épais tissu urbain que les fouilles y sont difficiles, et donc ce sont souvent des trouvailles en quelque sorte éclatées, discrètes dans le maquis des constructions modernes qui peuvent être faites. Cette stèle, là vous avez sa localisation initiale, donc à Ain Shams Est, dans le tissu urbain de Mataria. Alors le monument lui-même appartient à un certain Heni, la stèle avait été l'objet d'une publication par William Kelly Simpson. Et elle a ensuite fait l'objet de nombreuses analyses, notamment récemment par Claire Somalino, qui lui a consacré un article en s'intéressant à ce que recouvrent précisément les fonctions du personnage comme directeur de la Basse-Égypte et grand chef du nome Eka Anj Est, donc un homme qui s'étend jusqu'à la limite orientale de l'Égypte, le personnage étant impliqué dans des expéditions vers les mines et carrières, ou alors possiblement dans des campagnes militaires contre des populations de l'est de l'Égypte qui menaçaient donc potentiellement la frontière. Donc c'est en tout cas l'analyse qu'en fait Claire Somalino. Vous avez ici une liste des titres principaux du premier propriétaire de la stèle, Eni. Donc il a des titres de cour. Il est Erpat Atia ou Atia, chef du pays tout entier. Il est aussi chancelier du roi de Basse-Égypte, directeur de l'audition des jugements, directeur des connus du roi. Donc, des titres qui le rattachent directement à des fonctions stratégiques, lui donnant nécessairement accès à l'entourage royal. Alors, cette place éminente de Eni à la cour et aussi l'identité du roi qui était au centre de cette cour, nous sont fournis par un autre élément de la tombe du même personnage, en tout cas on le suppose, trouvé à proximité. C'est une architrave qui est au nom de ce même Eni, en tout cas on le devine, et qui porte également les traces d'une usurpation ultérieure. Alors, le texte a été étudié plusieurs fois, notamment par Ilin Tomic, dans le volume The World of Middle Kingdom, volume 1, Middle Kingdom Studies 1, en 2015, et est republié également par Claire Somalino. On nous dit, quant à cette tombe de la nécropole qui est dans le désert Djedit Ahad d'Héliopolis, c'est l'Horus Séhanrib Tawir, le roi de Haute et Basse-Égypte Séhanrib Ré, qu'il vive éternellement, qui m'a donné son emplacement en raison de mon efficacité, étant grand et estimé dans le cœur de sa majesté, plus que tout sien dignitaire qui était avec lui. Ô les vivants qui êtes sur terre et qui passez devant cette tombe, votre roi vivra pour vous, vos dieux vous loueront dans la mesure où vous direz, et puis on a la formule d'offrande classique. La phraséologie de ce passage reprend clairement celle de l'Ancien Empire. Elle insiste sur l'origine royale de la concession funéraire du personnage qui devait être situé à un endroit prisé dans l'environnement prestigieux d'Héliopolis et peut-être non loin d'une fondation royale. Alors, les inscriptions de l'architrave nous permettent aussi de fixer la date de la carrière d'Eni sous un roi Séhanrib Tawi, Séhanrib Ré, dont l'identification demeure néanmoins difficile. Il y a toute une littérature sur cette identification. On le situe maintenant, de manière relativement assurée, entre Montouhotep II et Amenemhat Ier, donc fin 11e dynastie, début 12e dynastie. Celui qui s'est réapproprié les monuments d'Eni s'appelle Réti Hor, mais il n'a fait que des modifications mineures sur le monument. Elles apparaissent en vert sur cette figure, et ainsi que pour les ajouts en rose. Donc c'est une figure que j'emprunte à l'article de Claire Somalino. Les ajouts ou les modifications concernent essentiellement la titulature et le nom du personnage et aussi certains personnages de l'entourage du propriétaire. Alors, le fils de ce Réti Hor porte le nom de Séhetep Ibré Hor, donc formé sur le nom de couronnement d'Amenemhat Ier, et le personnage a donc vécu probablement sous ce règne et ou celui de son successeur Sésostris Ier. Alors, cet usurpateur, même si le mot est sûrement impropre, a un profil professionnel assez différent de celui de Eni. Il est directeur du temple, on pense évidemment au temple d'Héliopolis, directeur des scribes, prêtre-lecteur en chef, prêtre-sem et directeur de tous les pagnes royaux. Mais ce dernier titre le place, là encore, très probablement dans la proximité du roi et du fonctionnement de la cour. Alors, si on regarde l'apparence de cette stèle Phosporte, Elle comporte quelques traits classiques de la fausse porte depuis l'Ancien Empire. Donc, vous reconnaissez tous la corniche à gorge, la scène du repas funéraire dans la partie centrale supérieure. Donc, on voit le défunt assis devant une table d'offrande, les deux yeux Ujjat, et dans la partie inférieure, des représentations du propriétaire debout, servant en quelque sorte de déterminatif décalibré aux inscriptions qui le surmontent à chaque fois. Alors, ce qui est frappant sur cette fausse porte, c'est que le propriétaire est représenté avec une grande variété d'attitudes, ce qui est relativement exceptionnel. Alors, généralement, aux époques précédentes, comme on le voit donc sur cette fausse porte de la sixième dynastie, au nom du vizir Tchétchou, le personnage est représenté dans une seule attitude, voire deux, tenant le bâton et le sceptre, donc avec la prestance habituelle du dignitaire. Ici, dans le cas de Eni, il est représenté, donc j'ai numéroté les figures, hein, en 1 avec le bras replié tenant un mouchoir, en 2 avec les bras le long du corps, en 3 donc tenant le long bâton et le sceptre de commandement, donc dans l'attitude habituelle du dignitaire, en 4 en position d'adoration, il est suivi ensuite par un petit personnage qui est son fils, et en 5 en tenue de combat, tenant un arc et une hache, donc la tenue militaire, qui est probablement là encore un héritage de l'iconographie de la première période intermédiaire. Cette gamme d'attitudes permet de représenter Eni dans les différents contextes de son activité, expédition, administration et justice, vie de cour, sans oublier la dévotion aux dieux. Alors le geste d'adoration mérite qu'on s'y attarde un petit peu, puisqu'on avait déjà fait attention à ce geste dans les reliefs de Saouré. Et à cette époque, nous avions établi une distinction entre la gestuelle des courtisans, qui tenaient les bras le long du corps, ou qui en repliaient l'un des deux par signe de respect, une distinction entre cette gestuelle courtisane et celle des individus étrangers, donc sur les bateaux allant vers Saouré, faisant donc ce geste d'adoration en signe de soumission. Alors on va avoir une évolution dans les représentations de la gestuelle, et à partir de la fin de la sixième dynastie, on va voir apparaître des représentations du dignitaire pouvant justement réaliser ce geste d'adoration sur les monuments funéraires. Alors, je renvoie à deux grands spécialistes des décors, de l'iconographie de l'Ancien Empire et de la première période intermédiaire, que sont Yvonne Harpour, donc dans son ouvrage de référence sur la Decoration in Egyptian Tombs of the Old Kingdom, qui note l'apparition de ce geste à la fin de la sixième dynastie, et puis Edward Browarski dans des études extrêmement riches et documentées qu'il a menées sur les fausses portes. Et Browarski cite un grand nombre d'exemples pour des attestations de ce geste à la fin de l'Ancien Empire, et pour lui, la première attestation datée serait à l'entrée de la tombe de Djaou et Djaou Shemaï, donc où l'un des deux personnages peut être à identifier au fils se trouve représenté dans cette posture d'adoration. Donc vous voyez qu'il y a dans une apparente fixité des représentations une évolution qui se fait jour dans ce qu'il est possible ou adapté socialement de représenter sur les monuments funéraires. Pour revenir à Eni, on voit comment, donc ici en variant les attitudes et en abolissant aussi partiellement la séparation des jambes de la fausse porte, il s'est créé une sorte de petite scène où le dignitaire se retrouve au centre d'une petite scène d'adoration et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il se trouve même en train de s'adorer lui-même, même si ce n'est pas le sens initial de ce geste. Les différentes jambes à des niveaux différents qu'on a sur les fausses portes traditionnelles ne sont plus visibles ici, à part virtuellement par l'effet des colonnes de texte qui se trouvent au-dessus des personnages. C'est ce que Browarski appelle une fausse porte atrophiée, et ce type devient courant, surtout à la XIIe dynastie. Alors, si on analyse maintenant le texte de cette stèle fausse porte, on peut noter, comme l'a fait Detlef Franke, une bipartition dans le contenu de l'inscription. Côté droit, on va avoir un texte qui est inspiré de l'autobiographie idéale de l'Ancien Empire, focalisé sur la relation au jugement des hommes et des dieux. Je suis sorti de ma ville, descendu de mon aume après avoir accompli ma hâte pour le dieu Auguste, le seigneur du grand temple, c'est-à-dire probablement le temple d'Héliopolis, après avoir satisfait le dieu avec ce qu'il désire, après avoir donné du pain à celui qui a faim, des vêtements à celui qui est nu, et j'ai chassé l'affliction pour celui qui était accablé par le malheur. J'ai délivré l'opprimé d'un plus puissant que lui, j'ai attribué le mensonge à celui qui le dit, mais la vérité, la ma'at, à celui qui l'apporte, afin que mon nom, c'est-à-dire mon renom, soit parfait devant le grand Dieu, Seigneur du ciel, et que mon renom soit bon sur la terre, l'imar auprès du roi, et puis vous avez ensuite l'identité du personnage. Donc là, on a une série de clichés de l'autobiographie idéale, sans connexion avec des actions réelles. On est tout à fait dans la continuité de ce genre que nous avions vu se développer à la VIe dynastie. Sur le côté gauche, là, on a une inscription qui développe le statut du courtisan éminent qu'était Eni, qui est surtout mis en avant ici. Le prince, le comte, le grand du roi de Haute-Égypte, l'éminent du roi de Basse-Égypte, le grand chef du nome Eka-Anj Est, qui détermine les lois et promeut les fonctions, le directeur de l'audition des jugements, à qui les grands viennent, alors en restituant, en s'inclinant à la double porte du palais, le semblable du roi dans la pacification des deux terres, loué par lui tout au long de la journée, celui qui exécute les ordres de sa majesté sans négligence, qui contrôle les connus du roi, grand dans sa fonction, éminent dans sa dignité, à la position élevée, grand d'amour, qui inspire la crainte du roi, qui pacifie pour lui les deux terres, qui apaise pour lui les habitants des sables. Alors, l'auto-présentation d'Eni utilise ici des épithètes qui constituent, au début du Moyen Empire, des passages obligés, des optographies de courtisans de premier plan, et qu'on retrouvera dans les inscriptions des hauts personnages de la XIIe dynastie. Des expressions comme « qui détermine les lois et promeut les fonctions » rappellent la prérogative du roi lui-même de promouvoir selon sa faveur. Et on a même ici l'expression « semblable du roi, miti nessu » qui laisse peu de doute sur le rôle que s'attribue à la cour ce personnage. Alors, vous notez également l'apparition ici d'une épithète qui nous dit que le personnage est quelqu'un à qui les grands viennent, et on restitue en s'inclinant à la double porte du palais. Alors, cette restitution s'appuie sur des parallèles qu'on a dans inscriptions contemporaines, en assez grand nombre. Alors, nous avons pour étudier ces formules autobiographiques, un certain nombre de répertoires, hein, le classique étant celui de Janssen, qui a longtemps fait autorité. Et pour les épithètes du Moyen-Empire, on a un ouvrage de Denise Doxey qui les inventorie. Et elle a listé un certain nombre d'attestations de cette formule à qui les grands viennent en faisant la révérence, UNF Uru M. Kessou, qu'on retrouve dans des inscriptions qui se trouvent sur des stèles, mais aussi dans des récits d'expéditions où les personnages s'auto-célèbrent en développant également un portrait d'eux-mêmes utilisant ces épithètes autobiographiques. Alors, ce qui est notable ici, on parlait de l'évolution des attitudes, c'est qu'on voit que la marque de respect qu'est la révérence, que le fait de s'incliner devant quelqu'un, n'est pas forcément ici uniquement adressée au roi, mais elle en vient à être utilisée entre les courtisans eux-mêmes pour marquer une sorte de hiérarchie interne. Et donc, on voit aussi l'évolution de ce langage des attitudes qui se diffuse en quelque sorte dans la hiérarchie sociale. Et si l'on se place même à un autre niveau, on peut noter que au sein de communautés plus restreintes, non pas à la cour royale, mais de domaines contrôlés par des potentats locaux, on va utiliser ce langage de l'attitude respectueuse pour marquer ses qualités internes. Donc ça devient en quelque sorte une qualité de comportement en société. J'en donne deux exemples dans l'inscription d'un autre énique du début de la 11e dynastie. Il se présente comme quelqu'un aimé constamment dans la maison de son maître, qui se montre respectueux dans son domaine. Et dans la stèle de Mérère, qui est conservée à Cracovie, qui avait été publiée par Cherny, l'attitude respectueuse, le fait de plier le bras, devient une qualité au même titre que l'éloquence et les qualités intellectuelles. Le passage nous dit « On ne m'a pas craché dans les yeux du fait de mon éloquence, de la justesse de mes pensées, de mon attitude respectueuse, du fait que je pliais le bras. » Donc on voit que le respect d'une étiquette de la gestuelle se convertit socialement en une sorte de politesse respectueuse à l'adresse des supérieurs, placée au même titre que des qualités de comportement. Et là, j'y vois, même s'il ne faut pas évidemment forcer le trait, un processus où les manières de cour, l'étiquette, se convertissent en vertu morale, en modèle de comportement social. Alors revenons à nos stèles. Donc après avoir vu l'exemple de Henny, on va aborder maintenant un autre cas très célèbre, à une époque légèrement postérieure, qui est celle qui est le cas de Montuotep, vizir de Sésostris Ier, donc qui a suscité une abondante littérature. Je vous ai mis quelques titres principaux qui vous permettront de naviguer dans les références liées à ce personnage, et on en verra un certain nombre de plus récentes un peu plus tard. Alors Montuotep nous est connu principalement sous son titre de directeur des choses scellées. Il ne portera le titre de vizir que relativement rarement sur sa stèle abydénienne et puis sur des monuments de Licht. Mais il est en tout cas l'un des personnages les plus importants du règne de Sésostris Ier. Donc on est en plein âge classique de l'Égypte. Et cette éminence grise, en quelque sorte, de Sésostris, va jouer un rôle fondamental. Il nous a laissé des monuments qui impressionnent par leur nombre et leur qualité, même si leur état est inégal. Et nous allons donc d'abord essayer de donner un aperçu de ces monuments pour voir la surface, entre guillemets, de ce courtisan à cette époque. Ce personnage a une tombe qui se trouve à Licht, donc capitale de la 12e dynastie. Sa tombe est située à proximité du début de la chaussée menant à la pyramide de Sésostris Ier et à l'est donc du temple funéraire de la pyramide. Cette tombe, elle avait été repérée par Gautier et Jéquier lors de fouilles menées au début du XXe siècle, mais ce n'est qu'avec les travaux du Metropolitan Museum of Art, menés par Dieter Arnold en 1988-1989, que l'identification du monument a pu être assurée. Les éléments conservés ont été publiés en 2008, donc dans l'ouvrage Middle Kingdom Tomb Architecture at Licht, donc par Dieter Arnold. Alors, vous voyez que l'état des vestiges est très dégradé, mais les traces en fondation permettent quand même de restituer le plan de l'édifice. Il ne s'agit pas d'un mastaba traditionnel, mais ce qui est relativement étonnant, c'est une structure en forme de temple qui est même desservie par une chaussée. Comme le souligne Arco Willems, qui a fait le compte-rendu de la publication d'Arnold, il n'y a aucun équivalent dans l'architecture non royale pour ce type de construction, et le bâtiment qui se rapprocherait le plus de celui-ci du point de vue du plan, c'est le temple funéraire de Sésostris III à Abydos. Le monument est très ruiné, on l'a dit. Les murs de l'édifice qui étaient en briques crues étaient autrefois pourvus d'un parement en calcaire décoré de reliefs, dont on a conservé certains éléments très limités. On perçoit simplement des fragments de représentation du personnage en dignitaire. Donc on voit ici la main du personnage tenant le bâton et puis des éléments de son nom Mentuhotep sur certains fragments. Alors sur le côté sud du bâtiment se trouvait une série de salles annexes qu'Arnold identifie à des maisons de prêtres. Des fragments d'une dizaine de statues du personnage en taille réelle, soit assises, soit en scribe, ont été aussi découvertes. Elles se trouvaient probablement disposées en rangée dans l'édifice. Elles n'ont pas été encore publiées, mais l'une d'entre elles, donc montrant précisément donc Mentuhotep en scribe, a été illustrée dans un article de Dieter Arnold. On peut en tout cas faire un rapprochement avec les statues de Mentuhotep que nous verrons installées à Karnak. Alors, on parlait de la structure originale de cette tombe. Donc, on voit qu'on a un parvis à piliers qui donne ici accès à une chapelle à l'ouest. Et juste au-dessous de la chapelle centrale se trouvait donc la tombe, les chambres funéraires de Mentuhotep, qui abritaient non pas un, mais deux sarcophages, donc l'un en granit et l'autre en quartzite. Celui qui est en quartzite est détruit en des centaines de morceaux. Et tous, enfin, ces deux sarcophages sont destinés à Mentuhotep. On a également une boîte à canopes en quartzite. Vous avez des images du sarcophage ici en granit de Mutuhotep et le dessin qui en a été réalisé. Et l'intérieur du sarcophage de granit est recouvert de stucs soigneusement décorés de textes funéraires, donc textes des pyramides, textes des sarcophages et des frises d'objets. Ces textes ont été publiés par Jim Allen en 2021. Donc cela nous donne une idée du statut absolument éminent du personnage, enterré à proximité immédiate du pharaon et possédant toutes les prérogatives, en quelque sorte, d'un haut personnage proche du roi. Alors, ce statut éminent ne se limite pas à Licht, puisqu'à Karnak, Mentuhotep a aussi laissé son empreinte. 11 statues, au moins, du personnage ont été consacrées dans ce lieu. Certaines ont été découvertes dans une favissa, une cachette située dans la tribune du quai de Karnak, qui avait été découverte par les chercheurs du Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak dans les années 1970. Ce sont les statues qui sont maintenant au musée de Louxor, J36 et J37, on y reviendra. D'autres statues ont été trouvées dans la grande cachette de Karnak par Georges Legrain, d'autres dans les parties centrales du temple ou dans la partie nord, très anciennement. Alors, assez récemment, Rita Fried a également ajouté à la liste qu'avait établie David Laurent une statue conservée partiellement qui se trouverait à Boston et qu'elle attribue, point de vue du style et de la configuration, à ce même Mentuhotep. Il est très probable que donc, ce Mentuhotep était en charge des grandes constructions de Sésostris Ier à Karnak. Il nous le dit dans les textes qui se trouvent inscrits sur les papyrus qu'il tient en tant que scribe, sur ses statues conservées maintenant à Louxor. Écrire sur le papyrus pendant la surveillance des travaux et la surveillance des offrandes divines en pain, bière, viande et volaille par le prince, chef de la double maison de l'argent, chef de la double maison de l'or, l'enfant royal, un titre un peu énigmatique, directeur des choses scellées, Mentuhotep, juste de voix. Et le deuxième texte nous dit « faire les lois, établir les instructions ». On retrouve le mot « tepred hein, », qui est le mot qui sert à définir tout ce qui est instruction, mode d'emploi. On l'avait rencontré pour les instructions du palais, « tepred en ar hein, », qui désignait l'étiquette. On peut l'utiliser aussi pour la construction, pour le comportement des prêtres, etc. Faire que chaque corps de métier dans Karnak connaisse son rôle en accomplissant la Maat et ce qu'Amon Ré désire par le prince chancelier du roi du Nord, directeur des choses scellées, Mentuhotep, possesseur du statut d'Imar. Alors, en passant, c'est un aspect important mais qu'on ne peut pas développer ici, je note aussi que le personnage se place dans la perspective, évidemment, de la réalisation des travaux royaux, mais aussi il s'agit de faire ce qu'Amon Ré désire, hein, qui est Amon Ré, c'est le maître des lieux, et donc le personnage se place aussi dans une perspective où il est en quelque sorte le courtisan du dieu Amon, celui dont il va assurer la réalisation des désirs et en retour bénéficier de la faveur. Alors, étant donné le rôle central de Mentuhotep dans l'activité constructrice sous Sésostris Ier, ce dont témoignent ses statues, et le nombre de monuments qu'il a pu laisser, on ne peut pas s'empêcher de mettre en rapport, même si ce n'est pas de manière directe, son rôle avec la réalisation d'un des grands monuments du règne de Sésostris Ier à Karnak, c'est-à-dire la construction du grand château d'Amon. Une scène donc, de ce grand château d'Amon, de Sésostris Ier, qui a été publiée, reconstituée par Luc Gabold, a été reproduite au Nouvel Empire, mais on peut en avoir aussi un aperçu de l'état primitif grâce à l'assemblage de blocs que vous avez à l'écran. Donc c'est, on doit à Luc Gabold d'avoir fait le tri dans les différents états de l'évolution de ce monument depuis donc, cet état initial et les différentes copies qu'on a au Nouvel Empire. On a ici le roi représenté dans une grande scène d'audience royale sur son trône, coiffé du pchent, tenant la massue Edge et un long bâton. Donc il se trouve assis sous un dé. Et immédiatement à droite, on a un long texte dont nous avons des traces des deux premières colonnes qu'on peut restituer ainsi, en suivant aussi évidemment les copies ultérieures. En l'an de règne qui suivit le quatrième mois de la saison Pérette, le 24e jour, il advint que le roi siégea dans la salle d'audience du palais et que furent convoqués les notables de la cour ainsi que les grands chefs du palais pour s'informer de certaines affaires relevant de sa majesté douée de vie éternellement. Or donc, et donc le texte se poursuit. Alors on a une datation qui est donnée de manière archaïque, hein, il faudrait probablement comprendre l'an 19. Comme le démontre Luc Gabold, même si ce petit extrait de l'incipit du texte est conservé, son contenu implique qu'il doit s'agir de l'introduction d'un texte qui était beaucoup plus long, dont nous avons des parallèles pour cette mise en scène du roi président à une audience royale associée à un très long texte, ne serait-ce que par le texte de la Genèse de Thoutmosis III à Karnak, qui reprend scrupuleusement la disposition des scènes de Sésostris Ier. Évidemment, le texte est différent ici, mais on voit comment se construisait ce type de représentation. On va avoir le même type de parallèle dans l'Arménou à Karnak. Ce qui permet de songer qu'il y avait, après les deux textes introductifs que nous avons vus, un long texte. Et ce type de long texte, nous en avons conservé la trace, attribué à Sésostris Ier, dans un document qui est copié sur un rouleau de cuir conservé actuellement à Berlin, qui date du règne d'Amenhotep II. C'est un récit qui est relatif à une construction du même roi Sésostris Ier, non pas à Karnak cette fois-ci, mais à Héliopolis. Mais vous savez que Karnak se veut une réplique, en quelque sorte, du temple d'Héliopolis. Ce texte, c'est le récit donc, de la prise de décision du pharaon de construire le temple d'Héliopolis. On en avait déjà évoqué la structure générale. L'an 3, le troisième mois d'Arète, le 8, sous la majesté du roi de Haute et de Basse-Égypte, Réperkaré, fils de Ré, Sésostris, défunt, vivant à jamais. Apparition du roi, coiffé du pchène, pendant que se tient une séance dans la salle d'audience. Prendre conseil de son entourage, les courtisans, Sémérou, du palais, et les dignitaires, Sérou, de la place privée, du cabinet. Donner des ordres à la suite de l'audition, prendre conseil en les informant. Écoutez, ma personne conçoit des travaux et pense à une entreprise qui serve l'avenir. Je ferai un mémorial et établirai des décrets imprescriptibles en faveur de Horarti, parce qu'il m'a procréé pour faire ce qu'il avait fait, pour réaliser ce qu'il avait ordonné de faire. Et ensuite, il y a un long passage dont je vous fais grâce, avec une sorte d'auto-glorification du roi. Et ensuite, on a réponse des courtisans qui disent « Où est ta bouche ? Sia est avec toi. » Ou c'est une sorte de parole créatrice divinisée. Sia, c'est la connaissance absolue personnifiée. Prince, ce qui arrive, ce sont tes projets. Quand apparaît le roi en unificateur des deux plaines pour tendre le cordeau dans ton temple, il est enrichissant de regarder le matin. C'est une activité utile à la vie. Alors là, on a les courtisans qui sont dans leur rôle classique dans ce type de texte qu'on appelle les Königsnovellen, les romans royaux. Ils servent en quelque sorte à créer une sorte d'effet de réception intermédiaire entre le discours du roi et l'audience, le public qui va lire ou se faire lire l'inscription. C'est-à-dire qu'il valide, il verrouille en interne, en quelque sorte, la valeur du discours du pharaon. Et c'est un dispositif qui est constamment utilisé dans ce genre de texte pour souligner l'efficacité de la parole royale. Alors, dans la deuxième partie du texte, le roi va reprendre la parole et va appeler ceux qui vont réaliser les travaux. Chancelier, trésorier de l'or et de l'argent, supérieur des secrets des deux couronnes, celui qui a pris ton conseil, c'est celui qui va faire le travail tel que ma personne a voulu qu'il soit. Tu en seras le directeur qui agira selon mes vœux. Le métier et l'affaire de l'homme soigneux, il appartient à celui qui n'est pas paresseux. Toute œuvre dépend ou appartient à de l'intelligence. L'homme d'action, c'est celui qui peut rendre efficace. Ton heure, c'est le moment d'agir. Sera selon tes besoins en décret, en matériaux, etc. Que soient prises les mesures concernant les ouvriers pour construire comme tu auras décidé. Et ensuite, le roi va se rendre sur le terrain, tendre le cordeau pour fonder l'espace qui va servir à la construction du temple. Et en tout cas, le processus de construction est maintenant lancé. Et c'est ce type de texte qui se trouvait généralement reproduit sur des stèles associées à la fondation d'un monument royal. Alors, il existe un débat égyptologique sur la date de la composition de ce texte. Alors, je n'élude pas la question parce que c'est quelque chose qui est central dans ce qui nous occupe ici, c'est comment fixer la date des textes dans l'histoire pour pouvoir les utiliser de manière historique, en quelque sorte. Et c'est un débat constant, on va le revoir à nouveau dans le cas des textes sapientiaux, ce décalage entre la date du manuscrit sur lequel nous est transmis le texte et sa date de composition réelle induit forcément des divergences dans l'interprétation de cette date de composition, et c'est le cas pour ce texte. Certains, comme Philippe d'Erchin, ont voulu voir dans ce texte, non pas la copie d'une Königsnovelle du Moyen-Empire, qui aurait pu être recopiée depuis un texte inscrit sur les murs du temple d'Héliopolis, mais une composition originale de la 18e dynastie. Alors il a toute une série d'arguments linguistique, et pour lui donc c'est authentiquement une œuvre historique où quelqu'un raconte des faits du passé qu'il connaît par des sources en se servant des moyens littéraires de son temps pour instruire ses contemporains. Et pour lui même c'est l'exagération propre aussi au lyrisme de Philippe d'Erchin. Pour lui ce serait le texte qui marquerait même les débuts de l'histoire, hein. En tout cas, cette datation du texte plus proche de la date du manuscrit, donc à la 18e dynastie, a été reprise dans d'autres perspectives par certains chercheurs, notamment Andreas Stoder a récemment analysé le genre de la Königsnovelle en mettant en exergue certaines particularités d'attestation de ce type de texte à la 18e dynastie, notamment dans certaines tombes thébaines, particularité qu'il note être partagée par le rouleau de cuir de Berlin. Et donc pour lui, même si la discussion reste ouverte, il est imprudent d'accorder par défaut en fait une datation Moyen Empire à ce texte, et pour lui la datation 18e dynastie se défend tout autant. Alors bon, encore plus récemment, en 2022, Arco Willems évoque aussi le problème dans une perspective cette fois-ci d'analyse historique sur le Moyen Empire, et il tranche la question dans le sens d'une datation Moyen Empire. L'explication la plus simple pour lui est qu'un format général des inscriptions relatives à des constructions a été utilisé sous ces Sésostris Ier, et que le scribe du Nouvel Empire qui a composé le rouleau de cuir de Berlin a copié une inscription originale de Sésostris Ier qui était encore visible à l'époque. Le rouleau de cuir de Berlin doit donc être très proche d'un original du début du Moyen Empire. Donc on pourrait multiplier les références, hein, il y en a des dizaines et des dizaines, chacun ayant un avis sur cette question. Donc, à mon sens, effectivement, l'existence de ce type de scène, clairement ancrée dans le Moyen Empire, puisque c'est un original de Sésostris Ier, les parallèles de Königstovele qu'on a aussi sous le règne de Sésostris Ier, notamment à Todd, permettent légitimement de penser que ce type de texte existait de manière contemporaine du règne de ce pharaon du Moyen Empire. Dès lors, même s'il n'y a pas de nom cité dans la Königstovele, dans l'appel que fait Sésostris Ier à un haut responsable des travaux, on voit se dessiner la figure d'un Montuhotep ou un de ses collègues, et il serait quand même très attendu que ce soit ce personnage, ce Montuhotep, qui soit la personne à qui Sésostris Ier s'adresse dans l'inscription de Karnak pour mener les travaux dans le grand château d'Amon. Alors après Licht, Karnak, venons-en à Abydos, qui est au cœur évidemment de la notoriété de Montuhotep, puisque nous est parvenue cette magnifique stèle, même si son état de conservation est dégradé, stèle monumentale, près d'1,90 m de haut, au nom de ce personnage, Montuhotep. Elle porte le numéro KERCG 20539. Elle a été découverte par Mariette sur une structure située à l'extérieur ouest du mur d'enceinte du temple d'Osiris à Abydos. Alors, elle devait être installée de manière bien visible sur ses deux faces, à proximité de la terrasse du grand dieu, donc du grand dieu Osiris. Mais, alors, il y a tout un débat là-dessus, dont je vous fais grâce. Elle devait être probablement installée indépendamment de la chapelle Maat, chapelle mémoriale, qui se trouvait parmi beaucoup d'autres installée à proximité du passage de la procession osirienne. Et on attribue plutôt à cette chapelle, à ce mémorial, les éléments de Montuhotep conservés, l'un à Avignon, cette stèle Naos, et l'autre à Boston, donc une fausse porte où on voit la représentation du personnage. Alors on a noté que ce personnage se faisait constamment représenter avec un certain embonpoint, hein, il y a une certaine volonté de montrer dans ces représentations l'opulence visible physiquement de ce haut personnage. Alors la stèle de Montuhotep, c'est un monument très, très connu. Vous en avez ici la structure décomposée par grandes séquences. Donc sur le recto et le verso, dans la partie supérieure, on a une scène composée à partir de la titulature royale de Sésostris Ier face à la figure d'Osiris Rentimentiu. Et d'ailleurs, il faut noter, hein, puisque ça paraît quelque chose d'assez classique au premier abord, que c'est là une des premières attestations d'une stèle non royale présentant une représentation de divinité, donc en l'occurrence ici Osiris. Ensuite, nous avons un décret royal ordonnant l'institution de la chapelle à la terrasse du grand dieu et les loges de Mentouhotep. Un premier discours de Mentouhotep décrivant ses réalisations et fonctions, un deuxième discours décrivant son action à l'étranger, un troisième discours faisant l'éloge de sa prééminence à la cour, et devant la représentation du personnage debout, un appel aux prêtres et aux passants. Et sur le verso de la stèle, on a, donc après le protocole royal, les titres et épithètes de Mentouhotep et un quatrième discours faisant l'éloge de sa prééminence à la cour également, et enfin un appel aux dignitaires et aux émissaires royaux qui passeraient devant le monument. Alors il faut ajouter des textes qui se trouvent aussi sur les tranches de la stèle, qui comportent des titres et des épithètes de Mentouhotep. Le texte lui-même a fait l'objet de nombreuses traductions, hein, pour les plus récentes, celles de Claude Sommer, de Renata Landgrafova, de Bernard Mathieu. Donc je les ai utilisées pour vous proposer cette traduction du passage, donc, qui vous donne une idée du contenu et de la forme de cette stèle. Alors, nous n'avons pas le temps d'entrer vraiment dans le détail. J'ai mis en exergue les passages où Mentouhotep souligne son rôle à la cour. Il est le second du roi dans l'acte de saluer le nom. Alors, les traducteurs ont restitué dans l'acte de saluer le nom des dieux. Je me demande si là on n'évoque pas plutôt un protocole interne à la cour où on citerait, ou un héros citerait les noms des personnes présentes et donc il y aurait un ordre fixé par l'étiquette dans les séances de la cour ou les cérémonies et Mentouhotep donc, se placerait juste après le roi dans l'évocation des noms cités par ce héros, c'est possible. C'est l'homme de confiance du roi devant les deux terres, son préféré parmi les courtisans, un potentat parmi les dignitaires, à la place prééminente pour approcher le trône d'Horus, hein, c'est-à-dire le trône du pharaon, un homme d'exception à qui on pouvait se confier, le noble préposé aux bornes de la cour. Donc là, on renvoie quelque chose qui serait lié à la cérémonie de la fête cède, qui maîtrisait le langage du palais. On retrouve cette maîtrise de la forme du langage classique, qui plaçait quelqu'un à un poste en fonction de sa loyauté. Là, on retrouve aussi ce qui était strictement de la prérogative royale à l'ancien empire, de pouvoir promouvoir quelqu'un en fonction de ses qualités, de son dévouement. Patient, sans égal, d'une écoute parfaite aux propos excellents. Donc là, on trouve l'idéal de réserve du courtisan, celui qui sait se contrôler, qui sait écouter, et aussi celui qui sait parler ensuite à bon escient. Donc un dignitaire sert qui résolvait les problèmes que le dieu a distingué devant la multitude comme un homme efficace dont il a reconnu la renommée. Quelqu'un dont on attendait la venue à la cour qui rendait impuissant celui qui se rebellait contre le roi, donc à la fois quelqu'un qui conditionne en quelque sorte le comportement des courtisans vis-à-vis de lui et qui sait aussi faire taire tout ce qui est tentative de rébellion à la cour. Donc vous voyez que mélangé à d'autres épithètes soulignant le rôle judiciaire, notamment du vizir Mentouhotep, on a le portrait très finement ciselé du parfait courtisan, qui est à la fois l'homme de confiance du pharaon, mais qui sait aussi, en quelque sorte, contrôler l'ensemble de la cour et réguler en quelque sorte les comportements dans ce monde très policé qu'est le monde des courtisans. Alors, un autre passage est assez intéressant. Je le cite rapidement. « J'étais quelqu'un qui parle librement selon sa voix dans le palais du roi, qui préside à faire taire les courtisans, quelqu'un d'unique pour le roi de Haute-Égypte, sans égal, celui qui élevait la maat au palais, le grand porte-parole du bien, le seul à être grand, celui qui nourrissait les rérites, c'est-à-dire la population, vers qui les grands venaient en s'inclinant à la double porte du domaine royal. » On retrouve la formule qu'on a vue tout à l'heure. Ce qui m'intéresse ici, c'est cette formule « Je suis quelqu'un qui parle librement, littéralement selon sa voix, medou er rerouef ». C'est une expression qui s'est développée énormément dans les textes de la première période intermédiaire, dans l'autobiographie du célèbre Ortifi, hein, ce chef de guerre, dont on avait évoqué au tout début de nos travaux l'autobiographie. Eh bien, on trouve l'emploi de cette formule qui montrait l'indépendance d'esprit et de langage du locuteur dans un contexte de crise, par contraste avec le reste de la population qui était soumis à la peur. Alors on voit qu'ici, cette phraséologie de la première période intermédiaire, elle est réinjectée dans un contexte qui est celui, cette fois-ci, de la cour, d'un microcosme social où le personnage affirme là, sa latitude acquise grâce à la confiance du roi pour réguler en quelque sorte les crises internes qui pouvaient s'y produire. Donc maintenant, si on envisage les deux inscriptions autobiographiques sur lesquelles nous venons de nous attarder, donc celle de Eni Rétihan à Héliopolis et celle de Mentouhotep, ce qui ressort, c'est qu'elles offrent des portraits de courtisans de très haut statut, qui sont fondés sur des séquences d'épithètes, parfois complétées par des indications de situations particulières, mais jamais de considérations personnelles. On a des suites de qualifications, patient, qui sait écouter, etc., qui parle librement, mais tout cela reste relativement abstrait. Et de fait, ces portraits se transforment en modèles qui font l'objet d'appropriation par une simple personnalisation du locuteur. Alors, on l'avait déjà vu de manière très évidente avec le cas de la fausse porte d'Eni à Héliopolis. Quelques années après sa disparition, son portrait peut être récupéré par un autre individu au prix de la regravure de certains titres et du nom du personnage. À partir du moment où le portrait textuel et iconographique du premier propriétaire recherche avant tout donc, les standards de la représentation d'un dignitaire proche du roi, grâce à un formulaire répondant aux valorisations sociales de son temps, eh bien, en fait, ce portrait peut être repris par n'importe quel autre dignitaire. Et d'une certaine façon, le caractère archaïque, voire obsolète, de certaines formules ne va pas être en cela un obstacle, puisque la cour, on l'a vu, se complaît dans un passé fondateur qu'elle cherche en permanence à réactiver. La stèle de Mentouhotep reprend plusieurs séquences d'épithètes de celle d'Eni, hein, notamment qui promeut les fonctions, par exemple, ces formules devaient être rentrées dans un répertoire phraséologique consacré, peut-être d'ailleurs avec un arrière-plan de louanges cérémonielles qui nous est malheureusement inaccessible. En tout cas, le texte de Mentouhotep lui-même, particulièrement soigné, est devenu un classique qui est repris au Moyen-Empire dans une autre stèle, la stèle de Sehetep Ibré, qui est installée à Abydos également, on va le voir un peu plus tard, qui va en reprendre de larges séquences. Et aux époques ultérieures, elle va servir de mine de création textuelle pour beaucoup d'autres autobiographies, notamment, je pense à la stèle de Carès, au début du Moyen Empire, du Nouvel Empire, pardon, 18e dynastie, où Carès a simplement repris des séquences entières de l'autobiographie de Montuhotep, en adaptant le genre de la personne qu'il servait, puisqu'il était au service d'une mère royale, donc transformant Nebef, son maître, en sa maîtresse, ou Nessou en Mout-Nessou. Mais on voit que les séquences d'épithètes dans la stèle de Carès sont identiques aux séquences utilisées dans la stèle de Montuhotep et renvoient à des qualités du parfait courtisan, au discours efficace auprès de sa maîtresse, à la grande autorité dans la demeure de la mère royale, aux paroles pondérées, au discours efficient, discret, c'est-à-dire caché de ventre sur les affaires du palais. On retrouve cette double qualité du courtisan, hein, qui est celle du courtisan parfait que définit d'ailleurs Norbert Elias, celui qui est capable d'autocontrainte, de discrétion, et par ailleurs celui qui arrive à tirer son épingle du jeu par son discours auprès de son maître. Donc le passage des autobiographies au statut d'œuvre recopiée et adaptée va être patent aussi avec un exemple célèbre, celui des autobiographies d'Assiout, donc celle de Jephaï Appi, hein, le grand personnage ayant dominé la vie locale d'Assiout sous Esostris Ier, et puis les tombes contemporaines ou datant de l'époque héracléopolitaine, ces textes ayant été recopiés sur papyrus et ont connu une transmission très longue puisqu'on a retrouvé des copies d'époque romaine à Teptunis dans le Fayoum. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est la notion de portrait modèle qui émane de ces textes autobiographiques. Et cela crée un lien naturel, évidemment, avec le genre sapiential, le genre des enseignements, des textes de sagesse. Alors cela a été rappelé tout récemment par Pascal Vernus dans un ouvrage que j'ai déjà cité comme une somme de références sur ce type de texte, hein, « Sagesse de l'Égypte pharaonique », paru en 2001 avec une deuxième édition largement augmentée en 2010. Donc cet ouvrage nous donne à la fois un état des lieux sur le corpus des sagesses et un point de départ pour voir ensuite quelles avancées récentes ont été réalisées sur ce type de texte dans les 15 dernières années. On va avoir l'occasion de le voir. En tout cas, dans ce volume, Vernus évoquait les liens entre genre biographique et genre sapiential en parlant de consanguinité. Il disait que ces autobiographies et sagesse ont en commun de mettre en œuvre un système de principes éthiques, les unes pour poser et les prescrire, les autres pour les présupposer en proclamant l'application exemplaire. Bien plus jusqu'au Nouvel Empire, à tout le moins, elles proviennent du même milieu social, comme le montre leur interpénétration. Alors on a un exemple très évident de cette interpénétration des genres, c'est la stèle de Sétep Ibré, Caire CG 20538, qui reprend, je l'ai évoqué tout à l'heure, de grands passages de la stèle de Montuhotep, hein, qui était installée dans le même contexte à Abydos. Il faut s'imaginer aussi que ce qu'on a dit sur l'émulation qui existait entre courtisans dans le secteur des mastaba menfit devait aussi exister dans le contexte de la terrasse du grand dieu à Abydos. C'était à celui qui allait avoir le plus beau monument, la plus belle stèle, le texte le plus riche, l'autobiographie qui reprenait de manière la plus accomplie les classiques de l'autoprésentation. Alors, dans cette stèle qui a un recto et un verso, comme celle de Montuotep, avec des séquences de titres et des épithètes, des appels aux vivants, des récits qui mentionnent la participation aux fêtes d'Osiris, on va avoir intégré une pièce rapportée, en quelque sorte, qui est un passage d'un enseignement qui est connu depuis longtemps sous le nom d'enseignement loyaliste, hein, qui a fait l'objet d'une publication par Georges Posner. Alors, tout récemment, le texte a fait l'objet d'une étude nouvelle pour lui-même, un article d'Andrea Stoder qui s'appelle « La forme poétique de l'enseignement de Sétep Ibrei », où l'auteur considère qu'il s'agit en quelque sorte d'une composition qui se suffit à elle-même, dont la composition rhétorique est excellemment élaborée. Donc j'ai repris ici sa traduction pour vous en donner un aperçu. Commencement de l'enseignement qu'il a fait à ses enfants. Je veux dire quelque chose d'important, je veux faire que vous écoutiez, je veux faire que vous appreniez un conseil toujours valable, une manière de vivre véritable, comment passer le temps d'existence en paix. Adorez le roi Nima Atré, doué de vie en votre fort intérieur. Fraternisez avec sa personne en vos esprits. C'est Sia qui est dans les cœurs, ses yeux scrutent chaque intérieur. C'est Ré par les rayons duquel on voit, par nature il illumine le double pays, plus que le disque. Par nature il fait verdir plus qu'une grande inondation. C'est de force et de vie qu'il a rempli le double pays, etc., etc. Et puis on a la fin, battez-vous pour son nom, honorez son serment, soyez libre d'une occasion de sédition. Et le partisan du roi est destiné à être un imar, mais il n'y a pas de tombe pour qui se rebelle contre sa personne. Son cadavre est chose jetée à l'eau. Faites cela et vos corps se porteront bien, vous le trouverez bon pour l'éternité. Donc un appel très clair à se soumettre à l'autorité du roi. On retrouve aussi dans certaines formulations un discours proche qui est de celui des courtisans, hein, qu'on avait vu dans la Conix Novelleux, mais qui, cette fois-ci, est adressé non pas au roi lui-même, mais en quelque sorte en descendant vers ses sujets. Alors le fait que l'enseignement sébaïte, hein, soit mentionné, soit signalé ici, c'est un indice important du fait qu'il y a une insertion délibérée d'un texte en quelque sorte exogène à l'autobiographie funéraire. Là, on signale en quelque sorte que l'on emprunte à un genre extérieur. Parce que, évidemment, ce n'est pas forcément la première fois que l'on va avoir des invocations de type loyaliste dans les inscriptions funéraires. Si on remonte à la 6e dynastie, on a dans la tombe de Mechechi, un mastaba qui a été démantelé à l'occasion de fouilles illégales et dont les fragments ont été disséminés dans plusieurs musées du monde, dont le Louvre et Berlin, les fragments ont été réunis dans une publication par Peter Kaploni. Et bien, dans cette tombe, on va avoir sur la façade, le montant est conservé maintenant à Berlin, un appel aux vivants qui a des accents qui font vivement penser à l'enseignement loyaliste. Ô vivants qui êtes sur terre, glorifiez le roi pour que vous viviez, soyez vigilants quant à sa réalisation, protégez son ordre, faites ce qu'il désire. C'est utile de connaître celui qui fait ce qui est loué. C'est un imar aimé du Dieu, il est sauf à cause de cela. Sa conduite est parfaite tout le temps de sa vie. Cela lui est utile auprès du Dieu dans le bel Occident. Donc la louange et la fidélité au roi sont les conditions, en quelque sorte, d'une existence paisible et même d'une survie post-mortem. Alors Kaploni avait parlé de nouveaux enseignements pour ce texte, l'incluant dans les prémices du genre. Alors il est difficile d'aller jusque-là, puisque les critères qui définissent le genre sapiential, c'est-à-dire le titre, Sébaïte, la situation de transmission entre un enseignant et ses élèves sont ici absents. Tout au moins peut-on dire que le discours du genre autobiographique semble ici emprunter ses formulations à un autre genre de discours et qu'il y a un début en quelque sorte de détachement, même d'évolution du genre. Mais revenons au cas de Sétep Ibré. On a dans la stèle de Sétep Ibré donc une version d'un enseignement qui est l'enseignement loyaliste, qui est connu en fait par deux versions. Une version courte, donc celle qui est attestée sur la stèle abidénienne de Sétep Ibré. Pour certains, il s'agit d'un abrégé du texte complet, et pour d'autres, comme Audrey Astoder que j'ai évoqué tout à l'heure, il s'agit d'une version indépendante, stylistiquement très élaborée, et qui ne peut être en fait un abrégé de la version longue. Et puis cette version longue, qui est attestée à partir de la 18e dynastie, donc qui a fait l'objet de cette publication de Georges Posner, l'enseignement loyaliste, et qui, grâce aux découvertes récentes, peut être attribuable à un auteur que l'on connaissait déjà bien, qui est Kairsou. Alors Kairsou, c'est un auteur bien connu. On savait qu'il était dans la tradition égyptienne un des grands auteurs loués par la tradition scribale, et on le savait cela par l'éloge des enterres anciens du papyrus Chester Beti IV, un texte extrêmement célèbre. Je le cite ici dans la traduction de Pascal Vernus. Alors, la visée du texte, c'est d'inciter les scribes à se consacrer à leur carrière, puisque un livre pour l'auteur est plus durable que tout autre monument funéraire. Et il s'appuie ici sur la renommée des auteurs classiques égyptiens. Y en a-t-il ici à la mesure de Hordjedef ? Un autre est-il à la mesure de Imhotep ? Pas un de nos contemporains n'est parvenu à la mesure de Néferti et de Réti, le meilleur d'entre eux. Je veux le faire connaître, le nom de Ptahem Djéouti et de Rare Pérécénèbe. Un autre est-il à la mesure de Ptahotep, de même pour Kairsou. Ces savants qui annonçaient l'avenir, ce qui est sorti de leur bouche s'est réalisé. Si on en a apprécié la valeur, c'est à travers des formulations écrites dans leurs livres. Alors, j'ai mis le nom de ces huit auteurs en gras. Et Pascal Vernus a rapproché donc ce groupe de huit auteurs, une sorte de Parnasse égyptien, et fait même une analogie avec la valeur sacrée de l'entité 8, hein, de l'Ogdoade égyptienne, qui a pu être une connotation sous-jacente au regroupement de ces auteurs célèbres. Alors ce Kairsou, il était aussi représenté dans la série des personnages illustres de ce qu'on a longtemps appelé le monument d'Arécy, hein, donc un fragment de paroi en hommage aux hommes célèbres, probablement issus d'une tombe ramesside de Saqqara. Et au sein d'une liste de vizirs célèbres, on a Kairsou, donc, qui apparaît. Alors, la situation a changé très récemment, puisque jusqu'à encore il y a peu, on ignorait l'œuvre qu'avait réalisée Kairsou. On connaissait son statut d'auteur classique, mais on ne savait pas de quoi il était l'auteur. Grâce au graffiti littéraire d'Assiout, on a pu attribuer la paternité de l'enseignement loyaliste à ce Kairsou. Alors cette découverte, elle a véritablement révolutionné notre connaissance des sagesses. La mission archéologique menée par Yoram Kal à Assiout a fait en 2005 une importante trouvaille au sein de la montagne dans laquelle ont été aménagées les tombes de la nécropole d'Assiout. Alors, la plupart sont très célèbres. Hein, la tombe 1, celle de Jephaï Api, a une apparence monumentale. Et puis, on a les tombes datant de l'époque héracléopolitaine, qui sont aussi très connues pour la richesse de leurs textes autobiographiques, évoquant notamment les combats entre les partisans de la cour héracléopolitaine et les Thébains. Dans les dégagements réalisés en 2005, la mission de Hörenkahl a découvert une nouvelle tombe, la tombe N13-1, qui se situe ici, qui appartenait originellement à un personnage qui s'appelait Itib-Ib, ou Itib-Ib-A, ou Itib-Iker, selon les versions, qui a vécu sous la période de réunification de l'Égypte, hein, pendant le règne de Mentouhotep II. Alors, ce n'est pas la tombe elle-même qui nous intéresse. On devine quand même ici une représentation du dignitaire sur un des piliers, avec des colonnes de texte donnant ses titres et épithètes. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les graffitis qui ont été ajoutés à la 18e dynastie par des scribes qui ont laissé des traces très visibles de leur visite sous la forme de graffitis de visiteurs, hein, c'est des formules qui sont bien connues à l'époque, soit sous forme de copies d'extraits d'enseignements, d'anthologies scolaires comme la Kémite, ou d'œuvres classiques comme l'hymne au Nil ou la prophétie de Néferti. Il revient à Ursula Verhoeven d'avoir patiemment étudié et édité ces textes, souvent très effacés ou malmenés par la superposition d'autres graffitis d'époque islamique, cela. Alors, vous avez ici, d'après le schéma réalisé par Ursula Verhoeven, une répartition à l'intérieur de la tombe de tous les graffitis présents avec l'œuvre qu'elle transcrive. Bon, il s'agit ici des textes littéraires exclusivement. Et donc, vous voyez qu'on a plusieurs passages de l'enseignement d'Amenemhat, de la prophétie de Néferti, de l'enseignement de Kayersou, de la Kémite, l'enseignement de Hordjedef, avec une version extensive, l'hymne au Nil, et puis parfois on a simplement des séquences très courtes avec début de l'enseignement. On trouve aussi l'enseignement d'un homme à son fils, l'enseignement de Réti. Donc ce schéma vous donne un aperçu de la richesse de ce corpus. Pour vous en donner un exemple, voici la manière dont se présente l'un des graffitos transcrivant le début de l'enseignement d'Amenemhat Ier. Donc évidemment, l'état des graffitis est parfois délicat, rend délicat leur interprétation, mais l'édition qui est parue en 2020 permet d'en avoir un aperçu extrêmement précieux. Alors, l'un des apports fondamentaux de l'étude d'Ursula Verhoeven, c'est d'avoir pu recomposer le contenu de deux enseignements, celui d'Hordjedef et celui de l'enseignement d'un homme à son fils. Elle a permis en fait de réattribuer ce qui était pendant longtemps considéré comme un passage de l'enseignement d'un homme à son fils à l'enseignement d'Hordjedef. Donc, elle a recomposé en quelque sorte les deux œuvres, ce qui fait qu'on n'a plus du tout la même appréciation de ces compositions, et ça en permet d'en raffiner tout à fait l'étude. Et puis, un autre grand apport de l'enseignement de l'étude d'Ursula Verhoeven, c'est ce qui concerne l'enseignement de Kayersou, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce Kayersou n'était connu que nominalement, mais on a maintenant une idée très précise du contenu de son œuvre, et il s'est avéré que ce Cahirsou était en fait l'auteur de l'enseignement loyaliste, puisqu'on a des textes nous donnant son identité au début du texte comme l'auteur de ce qui était connu très bien jusqu'à maintenant comme ce texte de l'enseignement loyaliste dans sa version longue. Alors le prologue du texte, c'est le début de l'enseignement qu'a dispensé le prince et comte, le père divin et aimé du dieu, le supérieur des secrets de la maison royale et chef du pays entier, le prêtre Sem et contrôleur de tous les pagnes, le maire et vizir Cahirsou, délivrant comme enseignement à ses enfants. Et ensuite, on va retrouver début du texte. Je veux vous dire quelque chose d'important, ce qu'on a ici avec la captatio benevolentiae du début du texte qu'on a vu tout à l'heure. Alors, il est intéressant de s'attarder sur le statut qui est conféré à cet auteur dans le prologue de son œuvre. Il s'agit, en fait, de toute évidence, d'un membre de la cour de haut niveau. On le voit, il porte des titres de cour, hein, prince et comte, il est père divin et aimé de Dieu, il est supérieur des secrets de la maison royale et chef du pays tout entier, prêtre Sem et contrôleur de tous les pagnes, et il porte le titre de vizir. Donc c'est un indice du haut statut du personnage comme appartenant, on pouvait s'en douter étant donné le contenu du texte, à la haute élite dirigeante et donc à la cour royale. Alors c'est le cas d'un grand nombre d'auteurs fictifs, entre guillemets, d'enseignement. Si l'on compare les titres attribués à Ptahotep, hein, donc l'auteur des maximes de Ptahotep, qu'on peut attribuer cette fois-ci de manière certaine au Moyen-Empire, on a des titres qui sont relativement proches. Dans une étude qu'a menée Friedrich Hagen sur l'instruction de Ptahotep, il a détaillé les attestations des titres portés par Ptahotep selon les manuscrits, donc le manuscrit Pris, le papyrus Pris, qui est le plus connu et le plus complet, et puis les autres versions qui sont pour une bonne part très postérieures. Et il montre que les titres les plus récurrents sont les quatre premiers, Iripat, Atia, Itnetcher, Merinetcher, qu'on va retrouver aussi dans la titulature de Cahirsou, et on va retrouver aussi ce titre de vizir, aussi de Eri-Secheta, Per-Nessou, donc dans les titulatures postérieures. Donc il y a une grande similitude dans les statuts sociologiques, en quelque sorte, de ces auteurs d'enseignement. Dans ce type de texte, c'est avant tout la cour qui parle aux élèves, donc le modèle qui va être transmis dans cet enseignement, c'est le modèle émanant directement du centre du pouvoir et donc le modèle comportemental des dignitaires, des courtisans. Alors ce qui est assez frappant quand on regarde la manière dont les scribes sont venus à la 18e dynastie investir le lieu dans cette pratique d'épigraphie secondaire, c'est qu'ils ont, dans un certain nombre de cas, associé ces textes émanant de l'élite de la cour à des figures qui pouvaient, en quelque sorte, les incarner, même si les personnages, le propriétaire de la tombe n'avait pas de lien direct avec les auteurs fictifs des enseignements. Dans ces schémas, on voit comment les graffitis sont venus se superposer aux figures des dignitaires, en quelque sorte, comme si on voulait, un lien s'établissait entre la nature du texte sapiential et le statut même de ces dignitaires anciens représentés dans la tombe. Pour conclure pour aujourd'hui sur cette question de l'enseignement de Kairsou, j'évoque rapidement un point qui reste épineux, c'est la question de la date de cet enseignement dans sa version étendue, qui n'est attestée qu'à la 18e dynastie, et la date d'un certain nombre d'autres textes, comme l'enseignement de Réti, l'enseignement d'Amenemhat, l'enseignement d'un homme à son fils, l'enseignement pour Méricaré, ne sont connus que par des témoignages de la 18e dynastie. Il y a un débat très animé depuis, on va dire, deux décennies sur la question de l'ancrage chronologique de ces enseignements. Alors, comme je le disais tout à l'heure au sujet du rouleau de cuir de Berlin, cet ancrage historique a quand même une importance essentielle pour nous dès qu'on veut analyser le contenu de ces compositions dans une perspective sociologique. En quoi reflète-t-il la structure et les modèles sociaux en vigueur dans la cour du Moyen-Empire. Pour le résumer rapidement, on a un certain nombre d'auteurs qui, par des analyses linguistiques et en utilisant aussi certains critères extra-linguistiques, veulent voir dans ces compositions scolaires des compositions datant de la 18e dynastie. Alors, on trouvera beaucoup d'éléments dans deux ouvrages, l'un collectif édité par Gerald Moers et d'autres collègues, issu d'un colloque Dating Egyptian Literary Texts, paru en 2013, et dans l'ouvrage de Andrea Stoder, Linguistic Dating of Middle Egyptian Literary Texts, où un certain nombre de ces auteurs appuient les datations tardives des enseignements considérés jusqu'à présent comme des enseignements du Moyen-Empire. En 2017, Carl Janssen-Wicken a publié un compte-rendu détaillé de ses ouvrages en mettant en cause une partie des arguments évoqués et en relativisant cette volonté de dater tardivement les enseignements. Alors, il y a toute une série de considérations dans lesquelles je ne peux pas rentrer en détail. La situation est que, à l'heure actuelle, on se retrouve en quelque sorte face à un choix cornélien et souvent dans une impossibilité réelle de trancher. Joachim Kouak, dans sa sagesse, en tout cas dans un article qu'il a publié sur la sagesse en Égypte en 2021, précise que, à l'heure actuelle, de bons arguments sont fournis pour conserver les dates les plus anciennes, donc d'après l'analyse de Janssen-Wicken, mais le débat reste ouvert. Je vous remercie, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouverai en 2025. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.